Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Les enseignements que vous recevez vous éclairent. Est-ce que vous prenez conscience de cette réalité spirituelle? Pendant trop longtemps, l'Église a fonctionné avec le béaba de l'Évangile, qui est bon, mais qui n'est pas suffisant. À un moment donné, l'apôtre Paul va dire dans une épître aux Hébreux, si c'est lui qui l'a écrit, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, ou Barnabas ou Silas, peu importe, il va dire, vous devriez être des maîtres alors que vous êtes encore des bébés, parce que vous en êtes encore au baptême, à l'imposition des mains, comme si ces choses-là n'étaient que les prémices de quelque chose de bien plus grand. Avoir reçu l'Esprit, le baptême, etc. Donc le Seigneur veut nous amener plus loin, à un évangile complet. Alors on peut avoir compris dans l'Écriture, d'avoir vu que Jésus chassait des démons, mais il faut que nos yeux se plongent avec l'aide du Saint-Esprit pour voir tout l'enseignement que l'Esprit de Dieu peut nous donner pour réaliser dans quel contexte spirituel nous vivons. Il y a une certaine béatitude d'avoir rencontré Jésus, mais il y a aussi une réalité que nous vivons. Et cette réalité, nous la percevons des fois très mal, mais par la parole de Dieu, nous commençons à comprendre et à discerner les choses qui peuvent nous entourer ou des choses qui peuvent nous agresser ou les choses qui nous mettent mal à l'aise. Parce que la parole de Dieu nous révèle ces choses. Dans les enseignements précédents, nous avons vu plusieurs thèmes et nous étions arrêtés mardi dernier sur la personnalité des esprits. Vous vous souvenez de ça? L'Écriture foisonne de détails concernant les esprits mauvais. Il est dit que par la bouche de Paul à Timothée, dans 1 Timothée 4:1, Paul va avertir Timothée dans sa lettre, dans son épître, de ce que seraient les derniers temps. Et l'Écriture nous donne un éclairage. Or, l'Esprit dit expressément, on pourrait dire l'Esprit dit avec empressement, qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi. Je ne crois pas à une apostasie radicale. Je m'explique. Je ne crois pas que quelqu'un qui croit en Christ, du jour au lendemain, il rejette le Seigneur. Je ne crois pas à ça. Je crois que l'apostasie, c'est un lent délabrement de la foi. D'ailleurs, apostasie, ça veut dire quelque part renier la foi. Mais je crois que si vous demandez à un chrétien, est-ce que tu veux renier le Seigneur, tous vous diront non. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, dans le fonctionnement de tous les jours, dans les attitudes de tous les jours, on s'aperçoit qu'il y a un délabrement. Ce que nous disons de notre bouche, nous ne le vivons pas en réalité. Et c'est ça ce que dit l'Esprit Saint. Il dit que dans les derniers temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Les démons ne vont pas vous enseigner en tête à tête, parce que ce sont des esprits. Les démons vous enseigneront au travers de faux serviteurs, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux évangélistes, de faux pasteurs. Je vous ai dit, en caractéristique, que Jésus avait décidé de bâtir son Église et qu'en contrepartie, Satan, lui, a décidé de détruire l'Église. Et pour détruire une Église, il faut la détruire d'une manière spirituelle. Que tu détruises les colonnes ou les murs d'ici, peu importe, c'est que du matériel. Mais détruire l'Église, c'est essayer de la détruire spirituellement. Et pour détruire spirituellement quelqu'un, faut lui donner une nourriture spirituelle avariée. Notre génération a vu des séductions. Dieu a fait des choses dans cette génération, mais l'ennemi s'est vite emparé des choses de Dieu pour amener les enfants de Dieu ou les chrétiens, comme vous voudrez, à aller sur le terrain de la chair plutôt sur le terrain de l'esprit. Je parlerai des gens qui se sont plus attachés aux manifestations du Saint-Esprit qu'à la parole de Dieu. Et ça a été un grand piège pour beaucoup d'églises. Même si Dieu, au départ, faisait les choses, ça a été perverti par le diable. Et sachez que chaque fois qu'il y a un réveil, immédiatement après, ce réveil est perverti par le diable. Donc l'Esprit de Dieu dit qu'au dernier temps, alors mettons-nous d'accord, Quels sont les derniers temps? Quand ont-ils commencé ces derniers temps? Hébreux, chapitre 1, verset 1. Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier sur toute chose, par lequel il a créé les mondes. Les derniers temps ont commencé quand Jésus est venu sur la terre. Ça fait 2000 ans que les derniers temps ont commencé. Mais Dieu n'est pas limité dans notre temps terrestre. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Admettons que Jésus est parti il y a 2 jours. Dieu n'est pas dans le temps. Il est hors du temps, il est dans l'éternité. Il est dans le temps avec nous. Et quand Dieu est dans le temps avec nous, Jésus a dit qu'il était limité dans sa tente. Que lui qui est le Dieu éternel, il s'est incarné dans un corps et ce corps l'a limité. S'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie. Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? C'est les gens qui vous jouent la comédie. Hypocrites en grec veut dire comédien. Il y a des gens qui jouent la comédie spirituelle. Ce que j'appellerais la comédia dell'arte. Ils ont l'air tout à fait spirituels, mais c'est qu'une comédie. Parce que la réalité est totalement autre. Disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. Qu'est-ce que ça veut dire une conscience cautérisée, frères et sœurs? C'est une conscience qui n'est plus sensible à quoi que ce soit. Par exemple, une conscience est cautérisée quand la parole de Dieu n'a aucun impact dans la personne. La personne peut entendre des tas et des tas de prédications, ça ricoche, ça pénètre pas. C'est une conscience cautérisée. La conscience, c'est l'endroit le plus sensible de l'homme. Et quand cette sensibilité n'y est plus, la conscience est cautérisée. Donc, les démons, les esprits mauvais, vont faire tout ce qu'il a en leur pouvoir pour que l'apostasie de la foi rentre chez les chrétiens. Voyez-vous, c'est un petit peu comme une barque sur laquelle vous seriez en train de pêcher. Alors, il y a deux manières de pêcher en bateau. Soit vous jetez l'ancre et vous êtes à demeure et vous pêchez sans bouger. Soit vous avez une deuxième méthode, vous jetez pas l'ancre et vous laissez le bateau dériver. Et c'est ce qu'on appelle pêcher à la traîne. C'est-à-dire le bateau dérivant, il va passer sur des lieux de rochers, hein, il va dériver. Et le pêcheur, lui, quand il pêche, il est tellement préoccupé à lever un poisson qu'il s'aperçoit pas que le bateau a dérivé de 2, 3, 4 kilomètres. C'est ça l'apostasie. Tu crois être dans le Seigneur et tout d'un coup tu te trouves loin du Seigneur. Loin du Seigneur, pourquoi? Parce que tout d'un coup, à un moment donné de ta vie, tu t'es mis à dériver. Si le Saint-Esprit dit expressément qu'au dernier temps, que quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des doctrines de démons, ça veut dire que tout ce que nous avons vu auparavant va nous conforter dans le fait que tous ces esprits-là n'ont qu'un but, de détruire les enfants de Dieu et de les séparer de Dieu. Il est dit dans l'Écriture que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande rage. Il est enragé contre l'Église du Seigneur. Il est enragé contre toi, contre moi, et particulièrement contre ceux et celles qui se tiennent devant la face de Dieu. Un chrétien qui est au pied du Seigneur est un danger pour le royaume de Satan. Je répète, un chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu qui se tient au pied du Seigneur, c'est un danger pour le royaume des ténèbres. En ayant vu toutes les caractéristiques de ces esprits, la manière dont ils agissaient, il est certain que Jésus lui-même a admis l'existence effective des démons. Il l'a admis, puisque nous l'avons vu chasser des démons. Mais en plus, il en a instruit ses disciples, en leur disant, par exemple, que rien, si ce n'est par la prière, ne peut faire sortir cette sorte d'esprit. Donc Jésus nous a enseigné. Par exemple, pour certains esprits, c'est par le jeûne et la prière qu'ils peuvent être chassés. Donc déjà, frères et sœurs, jeûner et prier doit être une caractéristique du vrai enfant de Dieu. Comment se fait-il que les disciples, n'est-ce pas, n'ont pas pu chasser cet esprit lunatique, épileptique, qui était dans cet enfant très jeune, ce païdion en grec, un enfant entre 0 et 6 ans, quoi, un petit enfant qui était jeté dans l'eau et dans le feu, vous avez ça dans Marc 9, que les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Ce démon qui agissait d'une telle façon sur cet enfant qu'il était poussé dans le feu et dans l'eau afin d'être détruit. Nous verrons ce cas particulier un peu plus tard, n'est-ce pas, quand on regardera les façons dont le Seigneur faisait pour libérer les personnes. Donc, Jésus nous a enseigné, instruit ses disciples en disant que si nous voulons aller au combat spirituel, il nous faut jeûner et il nous faut prier. Souvenez-vous de la prédication de dimanche, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josué à un moment donné? Et c'est là où le Seigneur me fait rappeler cette chose. Josué avait été un homme de Dieu qui avait obéi à Dieu. Sauf une fois où il s'était fait avoir par ruse par les Gabaonites, où il avait traité alliance, parce qu'il est dit qu'il n'avait point interrogé la bouche de l'Éternel. De lui-même, il avait fait cette alliance sans consulter Dieu. Chaque fois que l'homme veut faire quelque chose sans Dieu, il se plante. Mais il y a un autre passage de l'Écriture qui devrait nous enseigner, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sur l'ennemi si dans nos vies les choses sont tordues. Exemple, Jéricho. Souvenez-vous à Jéricho ce qui s'est passé. Jéricho a été donné par l'Éternel à Josué et au peuple d'Israël. Peu après, Josué doit monter combattre des ennemis. Lui, il ne bouge pas, il reste avec l'arc d'alliance parce que Dieu ne lui a pas demandé de monter. Il est resté, mais le peuple est monté. Et se sont fait tailler en pièces. Josué, voyant cela, se jette par terre. Il se jette de la poussière, comme font les Juifs, pour s'humilier devant Dieu. Et il interroge l'Éternel. L'Éternel va lui répondre. Il y a de l'anathème dans le camp. Alors tu vas faire approcher toutes les tribus les unes derrière les autres, après toutes les familles des tribus, et après tous les hommes de chaque tribu, jusqu'à ce qu'ils tombent sur Akan. Et Akan, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait volé, approprié, alors que Dieu avait dit, vous passerez par le feu, et vous, toute la ville, vous tuerez hommes, femmes, enfants et animaux, vous prendrez rien de cette ville, mais l'or que vous prendrez l'argent, il sera consacré à l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Akan, lui, il va prendre un manteau de Shinéar et des lingots d'or qu'il va cacher dans sa tente. Ça vous dit rien, le manteau de Shinéar? Shinéar, n'est-ce pas, en Babylonie? N'était-ce pas un manteau qui venait de Babylone? Nimrod, d'où il venait? De Shinéar. Il avait pris un symbole de la Babylone qu'il avait caché dans sa tente, y compris les lingots d'or. À cause de cela, Israël a été défait. Alors je vous dis ce soir, n'allez pas engager un combat spirituel si vous n'êtes pas en règle devant Dieu. N'allez pas combattre contre les esprits si vous n'êtes pas en règle devant Dieu. Akan avait menti, Akan avait volé, Akan avait triché, et il était celui par qui la défaite est entrée dans le peuple d'Israël. Frères et sœurs, quand nous allons rentrer dans un combat spirituel, il nous faut être devant Dieu clair, parce que les esprits savent si ça va pas dans vos vies. N'allez pas entreprendre un combat spirituel si vos vies ne sont pas claires, parce que les démons, les esprits vont se retourner contre vous. Ça, c'était pour Josué. C'était la prédication de dimanche. Et le Seigneur me montrait au cours de la journée comment, à cause de quelqu'un qui n'était pas clair dans le peuple, la défaite est arrivée. Alors qu'ils avaient la victoire sur Jéricho, vous vous rappelez, je vous ai tout donné, à vous de prendre. Jéricho, c'est quelque chose d'incroyable. Jéricho, c'est quelque chose d'impensable. Jéricho, on n'a jamais vu une ville être prise comme cela. 6 jours, vous allez faire le tour de la ville, les sacrificateurs sonneront la trompette, et vous crierez pas. Mais le 7e jour, vous crierez. Et toutes les murailles se sont effondrées. Dieu avait dit, je vous donnerai la ville. Ils n'ont pas eu besoin de marteau-piqueur pour renverser les murailles. Ils n'ont pas eu besoin de bâtons de dynamite pour dynamiter les murailles. Les murailles sont rentrées en terre elles-mêmes. Quand Dieu dit, je vous donne la victoire. Quand Dieu dit, la victoire est pour vous. Qu'est-ce que nous avons à faire? Comme Josué, marcher pas à pas et faire ce que Dieu nous demande. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Donc Jésus a admis l'existence des démons. Et les démons ont admis l'existence de Jésus, n'est-ce pas? On a bien vu, tu es Jésus, le Fils du Dieu très haut, tu es Jésus, le Saint de Dieu, etc. Ils le connaissaient à Jésus dans le monde spirituel. Ils savaient qui était Jésus. Après les avoir enseignés, leur avoir donné les instructions pour le combat, Jésus va leur dire quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça, vous allez trouver dans Luc 10, verset 17 à 20. Jésus va remettre un petit peu les choses, n'est-ce pas, dans le bon sens. Il leur a pas dit, désormais vous deviendrez des chasseurs de démons. Non, il leur a pas dit ça. Il leur a pas dit, Maintenant, vous êtes une élite spéciale, c'est vous que j'ai choisi pour combattre les démons. Non, 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 il n'a pas dit cela. Regardez dans Luc ce que Jésus va dire. Luc, chapitre 10, versets 17 à 20. Ensuite, quand les disciples lui dirent que les démons même leur étaient assujettis en son nom, Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber comme du ciel comme un éclair. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En 1984, 83, 85, quand le Seigneur a redonné à l'Église les armes du combat spirituel, mon épouse et moi, nous avons vu fleurir des spécialistes, des chasseurs de démons. Les gens avaient été tellement impactés par cela qu'ils disaient qu'ils avaient un ministère de délivrance. Ils s'étaient inventé un nouveau ministère qui n'est pas dans l'Écriture. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Il n'existe pas de ministère de délivrance. Il existe la délivrance qui est un service normal de l'Église. Il n'y a pas de ministère. Parce qu'en ce sens-là, c'est le Seigneur qui délivre. C'est lui qui délivre. Et si Jésus avait voulu que les ministères de délivrance soient dans le corps de Christ, il aurait marqué dans les 5 ministères, il en aurait fait un 6e. C'est simplement le service normal de l'Église quand il y a des gens qui viennent au salut et qui ont trompé dans l'occulte, etc., etc., qui a besoin de prier pour eux. Alors là, oui, la délivrance peut s'accomplir. Mais ce n'est pas un ministère. Jésus leur a dit, c'est pas parce que les démons sont chassés en mon nom que vous devez vous réjouir. Parce que ce que nous n'avons pas encore compris, l'Église n'a pas encore compris, c'est que c'est un conflit entre la lumière et les ténèbres, où Dieu a déjà la victoire. La victoire de Dieu, elle est déjà acquise, frères et sœurs. C'est nous qui sommes l'enjeu de cela. C'est le péché, et Jésus est venu pour cela. Il a réglé le problème une fois pour toutes par l'œuvre de la croix à Golgotha. Mais jusqu'au retour du Seigneur, des hommes naîtront, des femmes naîtront, qui iront faire leur vie. Et comme dans les derniers temps, les ténèbres déferlent, les gens sont de plus en plus attirés vers les choses obscures. Il y a un tel besoin de spirituel dans notre génération. Mais l'Église a failli. L'Église a failli. Nous devons demander pardon au Seigneur d'avoir failli. Elle a failli parce qu'elle n'a pas su donner le bon message de l'Évangile. Elle a failli parce que les gens qui cherchaient Dieu, au lieu de se tourner vers Dieu, ils se sont tournés vers les Bouddhas, les Krishnas et tout le panthéon des idoles. L'Église est fautive parce qu'encore en nous, il y a de la rébellion. Les Écritures enseignent que l'homme lui-même est responsable de son triste état de possession. Il faut probablement qu'il ait été avili et affaibli par le péché, personnel ou familial, avant de devenir la proie d'un démon. Un démon, il rentre pas comme ça dans une personne. C'est parce que la personne, elle pratique un péché délibérément. Quiconque pratique le péché, dit Jean, c'est l'iniquité. Et l'iniquité, c'est le péché. Ça veut dire le péché constamment pratiqué, et le même ou les mêmes péchés donnent une autorité à l'ennemi pour venir investir les vies. Vous croyez pas que les gens aujourd'hui qui vont dans les clubs échangistes toutes les semaines, des couples mariés qui échangent leurs femmes, les hommes avec les hommes et les femmes, ils sont pas infestés de démons de sexualité? Et j'en parle pas des homosexuels et du reste. Et je parle pas de ceux qui font le cultisme et du spiritisme. Et je ne parle pas de ceux qui vont consulter les guérisseurs et qui sont entre les mains des guérisseurs. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Regardez ce que Dieu a dit. Mais Dieu a dit des choses clairement, ou alors on n'a rien compris. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Israël devait rentrer dans le pays de Canaan, il va les mettre en garde. Dans Deutéronome 18, au verset 9, Dieu dit que pratiquer l'occulte, voir les pronostiqueurs, les enchanteurs, les magiciens, les sorciers, les personnes qui disent la bonne aventure, cela est devant lui une abomination, parce qu'on va chercher dans les ténèbres ce que Dieu, l'homme doit trouver dans la lumière, qui n'est pas occulte. Que dit Dieu? Quand tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Pourquoi croyez-vous que les Cananéens, les Éviens, les Phéréziens ont été passés par le fil de l'épée? C'était des gens sataniques. Ils pratiquaient la magie blanche, la magie noire. Ils pratiquaient l'occultisme, le spiritisme. Ils avaient des tas d'idoles, et les Molochs, et tout le panthéon des idoles. On sacrifiait les enfants aux idoles, on les faisait passer par le feu. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Il ne se trouvera au milieu de l'église personne qui fera passer par le feu son fils ou sa fille. Bon, aujourd'hui, ça se fait pas dans l'église. Merci Seigneur. Mais ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte des esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et à cause de ces abominations, l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Voilà la raison pour laquelle Dieu les a dépossédés, parce qu'ils pratiquaient ces choses. Et si tu es venu au Seigneur, et que dans ta vie précédente tu as pratiqué ces choses, et que tu ne les as jamais confessées, mais tu es en danger, ta vie spirituelle ne prospérera point. Au contraire, tu seras tourmenté. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu vas déposséder écoutent les pronostiqueurs et les devins. Mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas permis d'agir ainsi. C'est pour ces choses, frères et sœurs, que Dieu a donné à Josué cette autorité pour détruire, et cette puissance et cette force pour détruire toutes ces peuplades. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, en 2009, que se passe-t-il? Il y a des gens qui viennent à l'Évangile, mais sont passés par ces choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, il faut qu'ils les confessent. Parce que celui qui cache ses péchés ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et les avoue obtiendra miséricorde de la part de Dieu. Proverbe 28, verset 13. Mais si ces choses demeurent dans la personne sans les avoir jamais confessées, c'est quelque chose, un droit de l'ennemi de te maintenir sous l'oppression, la dépression. Il n'y a pas que ça. Interroger les marabouts, aller voir. Mais c'est dans l'écriture. Faire de la divination dans les abats d'animaux, dans le foie, dans les intestins. C'est encore aujourd'hui. Et quand on consulte le bois, hein, la source, on va trouver la source. J'ai une puissance en moi. Je vais trouver la source. Mon peuple consulte le bois, dit l'Éternel dans Ézéchiel. Mais il faudra bien qu'on arrive à faire un listing de toutes ces choses qui sont en abomination devant Dieu. Et la femme qui va consulter le voyant ou le faire revenir son mari avec des filtres d'amour, des photos, des mèches de cheveux. Je dénonce ce soir publiquement ces pratiques. On aura à y revenir dessus, parce qu'il y a tout un listing qui est dans l'écriture. Et je veux que vous connaissiez ces choses, pour que vous ne soyez pas ignorants de ces choses. En fait, le glorieux message de l'Évangile, frères et sœurs, est que Christ a triomphé de toutes les puissances des ténèbres. Et nous le verrons, le Seigneur, on va le voir à un moment donné avec, bon, j'anticipe avec ce fameux enfant de 6 ans. Il était lunatique. Lunatique. Vous savez ce que ça veut dire, lunatique? Vous l'avez lu, mais vous êtes posé la question, ce que ça veut dire dans l'écriture, lunatique? Ça vient d'un mot grec, séléniazo. Séléniazo, ça vient d'une racine séléné, et séléné, c'est la lune. Et au moment où il y a la pleine lune, il y a des pratiques qui se font, et des pratiques qui rendent les gens épileptiques. Car le mot lunatique est affilié au mot épileptique et sorcellerie. Mais c'est pas de la rigolade. Hein. Vous savez que les liens des ténèbres, il faut qu'elles soient déliés dans la vie des personnes. Mais il y a pas que ça. Il y a même des liens religieux, des démons religieux. Ceux-là, c'est les plus forts. Ils te font croire que tu es à Christ et ils t'ont embobiné dans une religion. Je ne connais qu'une chose, l'évangile du Seigneur pur, le pur évangile de Jésus-Christ. Il y en a pas un autre. Il y a pas une deuxième chose qu'on mettrait à côté. 1 Jean 3:8 dit ceci. 1 Jean 3:8 dit ceci. Celui qui pratique le péché est du diable. Car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Et pour détruire les œuvres du diable, il faut que le corps de péché soit détruit. Romains chapitre 6. Par une seule offrande, Jésus a annulé le corps de péché. Romains chapitre 6, vous le trouverez. Jésus, par une seule offrande, l'offrande de sa vie, a annulé le corps de péché. En annulant le corps de péché, il est en train de détruire toutes les œuvres du diable. Et quiconque invoque le Seigneur avec le désir, je souligne, quiconque invoque le Seigneur avec le désir profond d'être libéré, recevra sa ou ses délivrances. Le désir profond d'être libéré. Oui, je veux bien que tu pries pour moi, que je sois libéré. Ça marchera pas. Si tu cries pas au Seigneur et que tu invoques pas le nom du Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi un désir profond dans ton cœur. Je vois que dans ma vie, il y a des choses qui tournent par an. Délivre-moi, s'il te plaît, Seigneur. Si tu as cette prière, le Seigneur le fera. Mais si tu cherches un moyen technique spirituel, tu te trompes, ça marchera pas. Tu prends l'homme le plus loin, ça marchera pas. Parce que je te rappelle que c'est Dieu qui délivre. Car voici le résultat de cette chose. On va voir ce résultat dans Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservi à sa puissance, car Dieu était avec lui. Bonne nouvelle pour toi ce soir, le nom de Jésus est tout puissant pour briser toute la puissance de l'ennemi sur une vie. Quoi que tu aies fait dans ta vie, quoi que tu aies allé au plus profond du péché, au plus profond, tu cries à l'Éternel, et l'Éternel dans sa bonté, il te relève, il te délivre. Il est appelé le Dieu des délivrances. Jésus a dit, j'élève la coupe des délivrances en mon sang. Merveilleux Jésus, qui a payé le prix pour que nous soyons pas ignorants. Merveilleux Seigneur, qui nous a laissé sa parole qui est esprit et vie. Merveilleux Seigneur, qui nous instruit dans ce combat. Parce que là maintenant, nous savons à qui nous avons affaire. Nous sommes de Jésus, du Christ ressuscité. Et le diable n'a rien. Et frères et sœurs, quand nous voyons un frère ou une sœur souffrir, nous devrions pas nous contenter de notre petite foi bien heureuse, mais nous devrions aller au secours de cette personne pour que cette personne soit libérée. Ne te contente pas de ta petite vie bien tranquillette, bien tranquillou, parce que tu as connu le Seigneur et que le Seigneur a fait de belles choses pour toi. Mais maintenant, toi, regarde, porte tes yeux sur ceux qui souffrent. Alors maintenant, nous allons voir ensemble. Je sais pas l'heure qu'il est, mais on va.
Quelle heure?
C'est d'accord. On va voir un petit peu le procédé d'agissement des esprits pour nous amener à des états pas possibles. Comment ils agissent dans la vie d'une personne pour les asservir. Pour même, si c'était possible, les amener à la mort. La dépression chez un chrétien, est-ce normal? Qu'il y ait une dépression dans le monde, financière, je veux bien. Mais la dépression chez un chrétien, c'est pas normal. Si il y a dépression chez un chrétien, faut qu'il fasse attention pourquoi il est dans cet état-là. Sa vie est en danger. Vous savez, c'est pas tellement le péché aussi qui nous rend dans ces états. Il y a des tas de choses qui peuvent nous mener à la dépression. Je le disais dimanche, nous devons rétablir l'ordre dans nos maisons. Nous devons remettre Dieu au centre de nos maisons. Parce que cela a un impact avec le diable si nos maisons sont dans le désordre. Le désir du Seigneur, c'est que toutes nos familles soient sauvées. Amen. Vrai ou pas? Le désir du Seigneur, c'est que toutes nos familles soient sauvées. Mais pour que nos familles soient sauvées, nous devons aussi, nous, avoir notre part dans ce salut-là. Comment, si Dieu nous a dit, si tu crois, toi, toute ta famille sera sauvée, nous, oui, c'est une promesse de Dieu. Comme la victoire nous est donnée, nous avons à y marcher pas à pas dedans pour conquérir nos maisons, nos familles, rétablir l'ordre dans nos maisons, remettre Dieu à sa place dans nos maisons. Comme disait notre frère Pépé à Samarie. En ce temps-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de sacrificateur. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que c'est pas un petit peu l'état d'esprit aujourd'hui, en 2009, de chacun fait ce qui lui semble bon, même s'il appartient au Seigneur? Il y a dans nos vies des brisures à faire, des habitudes à casser, à rompre, à briser. J'en suis conscient pour ma propre vie. Nous constatons donc d'une manière sommaire que l'action diabolique peut être de l'ordre de la suggestion. Il commence à suggérer. On va voir un passage, et c'est le Seigneur qui a eu cette attaque-là. L'apôtre Pierre, dans Matthieu 16, verset 21-23, l'apôtre Pierre va être manipulé par l'ennemi. Il va suggérer à Pierre, regardez Matthieu 16, verset 21-23. Dès lors, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Bon, il commence à les préparer. Et voilà. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. T'en compte? Quelle audace. Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. Oh! Il veut s'opposer au plan de Dieu en ce que le Seigneur devait monter à Jérusalem pour aller à la croix et faire l'œuvre. Et lui, il veut s'opposer à ça. Et il se mit à reprendre Jésus. Dans le mot grec ici, c'est pas une répréhension simplement verbale, c'est comme il menaçait Jésus. Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. Mais lui, le Seigneur, se retournant, dit à Pierre, va arrière de moi, Satan, Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Mais à qui s'adressait-il le Seigneur ? À Satan qui était en train de suggérer à Pierre d'empêcher le Seigneur de monter faire l'œuvre là-bas à Jérusalem, d'aller à la croix et de mourir et de ressusciter le troisième jour. Non, non, tu n'y monteras pas. Mais Jésus a bien vu la manœuvre de l'ennemi. Jésus ne lutte pas contre la chair et le sang, il va lutter contre Satan. Et c'est pas la première fois que Pierre, il est dans une telle situation. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur va dire, Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour vous. Ceux qui font l'œuvre de Dieu, il faut qu'ils s'attendent à être attaqués. Il ne faut pas que nos vies soient des vies, comment dire, on ne peut pas bouger à droite ni à gauche, nous. On marche dans un chemin étroit et resserré, frères et sœurs. On ne peut pas faire du gymkhana avec Dieu. On est sur le chemin de la sainteté. Et étroite est la porte qui mène au royaume de Dieu. Mais large et spacieuse, celle qui mène à la perdition. Si tu veux vivre ta vie de foi comme tu l'entends, eh bien, vis-la, tu verras bien où ça te mène. Suggestion. Maintenant, nous allons voir le cas de Saül pour l'obsession. Il va commencer à suggérer, et après, avec cette suggestion, la personne va commencer à être obsédée par cette pensée. Alors, regardons, nous allons voir 1 Samuel, chapitre 16 et verset 15. Remarquez bien, frères et sœurs, quand vous allez lire ce verset, remarquez quelque chose d'important. Fais attention que si ton onction diminue, parce que ta communion avec Dieu est de plus en plus épisodique, fais attention que l'onction ne se retire pas de toi. Regardez ce qui s'est passé avec eux, avec Saül. Il est dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. » Oh, agité, ça veut dire quoi, ça? Ça? Non, non. Agité, il a été assailli, il a été terrifié, il a été épouvanté par ce mauvais esprit. Voyez-vous, la peur, la crainte, et assaillir quelqu'un, quand quelqu'un t'assaille tous les jours pour te dire la même chose, je voudrais bien que tu fasses ça, et puis, ah, tu m'as fait ça, je t'ai pas fait, alors tu vas faire demain, et t'aurais été demain, ah, tu l'as pas encore fait, et encore, elle t'assaille, elle est en train de te déséquilibrer dans ta patience. Remarquez bien que l'esprit a commencé à agiter Saül parce que quelque chose d'important s'était passé, l'onction a été retirée. Plus tu t'éloignes de l'onction de Dieu, plus tu t'éloignes d'être rempli du Saint-Esprit, et plus tu es en danger, plus tu es en danger. Verset 15, les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. » L'onction a été retirée sur Saül, et entre-temps, David, lui, il a reçu l'onction par Samuel. Et vous allez voir comment le diable va faire pour amener Saül à une position extrême. Regardez cela, la jalousie vis-à-vis de David, la victoire sur Goliath, l'onction de Samuel sur David, les victoires de David, la popularité de David au sein du peuple, autant de choses qui ont amorcé les désirs de vengeance de Saül. 1 Samuel 18, versets 7 à 8. Au fur et à mesure que Dieu faisait grandir David dans l'onction et que Saül diminuait, Saül a commencé à rentrer dans un processus de jalousie, de crainte, de peur. Vous allez voir tout ce qui s'est passé dans la vie de Saül. C'est intéressant de le lire. Il est dit, 1 Samuel 18, versets 10 à 11. On va lire à partir du verset 1. Allez, comme ça on va bien comprendre. Vous allez voir tout le processus qu'il y a là-dedans. Il arriva, comme il achevait de parler à Saül, que l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Saül le prit ce jour-là et ne lui permit pas de retourner à la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la robe qui était sur lui et la donna à David, ainsi que ses vêtements, jusqu'à son épée et à son arc et à sa ceinture. Et David allait partout où Saül l'envoyait, et il prospérait. Et Saül l'établit sur les hommes de guerre. Il était agréable aux yeux de tout le peuple et même aux yeux des serviteurs de Saül. Il arriva que comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül avec joie en chantant et en dansant avec des tambourins et des tringles. Et les femmes qui jouaient s'entre-répondaient et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et Saül fut très irrité. Jalousie. Ça y est. Ça commence la jalousie. Savez-vous que dans l'écriture, il y a un chapitre entier qui est consacré à l'esprit de jalousie dans le livre des Nombres? Un chapitre entier. Saül fut très irrité, cette parole fut mauvaise à ses yeux, et il dit, on a donné à David 10 000, et à moi, on m'a donné les 1000. Il n'y a plus pour lui que la royauté. Et il commence à avoir peur de perdre son trône. Et depuis ce jour-là, et dans la suite, Saül eut l'œil sur David. Quand tu es jaloux, tu as l'œil sur la personne que tu jalouses. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait pas, où il va, où il va pas. Il pointe l'œil dessus. Où tu es allé, où tu n'es pas allé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'as pas fait aujourd'hui. Où tu étais quand je suis arrivé, tu n'étais pas là, qu'est-ce que tu faisais. Saül eut l'œil sur David. Vous voyez le processus? L'onction retirée, un esprit commence à l'agiter. Il commence à voir que David grandit parce que, vous savez que David, c'est le seul roi d'Israël qui a eu 3 onctions. Hein. La triple onction, il a eu David. Il a eu l'onction par Samuel, il a eu l'onction en tant que roi de Juda, et il a eu l'onction en tant que roi de sur tout Israël. 3 onctions. Qui dit mieux? C'était vraiment le loin de Dieu. Celui d'où devait sortir la postérité de David, le fils de David, le Machiach, le Messie. Il arriva, verset 10, dès le lendemain, qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu saisit Saül, et il prophétisa dans l'intérieur de la maison, et David jouait comme les autres jours, il y avait une lance dans la main de Saül. Et Saül jeta la lance et dit, je frapperai David et la paroi. Et David se détourna devant lui par 2 fois. Verset 12, Saül eut peur de David, car l'Éternel était avec lui, et il s'était retiré de Saül. Jalousie. Verset 11, un peu plus bas, idée de meurtre. Quand on est jaloux, bien souvent, on veut tuer la personne. La jalousie amène au meurtre. Vous le savez ça? La haine et son désir d'éliminer David. Les idées de meurtre, les tentatives de meurtre vis-à-vis de David. La peur qui a animé Saül. Et Saül, verset 12, eut peur de David. Voyez-vous tout ce qui s'est imbriqué dedans? La jalousie, la peur, la haine, la crainte, les idées de meurtre vis-à-vis de David. L'esprit l'agitait drôlement, n'est-ce pas? Voilà le processus dans lequel était imbriqué Saül. Dans l'esprit le faisait dérouler devant lui toutes les attaques possibles. C'est pour ça que je vous dis, quand il y a de la peur ou il y a de la crainte dans un cœur, il faut chasser ces choses. Elles sont pas de Dieu. 1 Samuel 18, 14, David était sage dans toutes ses voies et l'Éternel était avec lui. Et Saül vit qu'il était très sage et il le craignit. Et tout Israël et Juda aimaient David car il sortait et entrait devant eux. La crainte, la peur, la jalousie, la haine, les idées de meurtre. Voilà des choses au travers desquelles les esprits travaillent sur l'homme. Sixièmement, le mensonge. Tiens. Encore le voilà qui ressurgit, le mensonge. 1 Samuel 26, verset 21 à 25. 1 Samuel 26, verset 21 à 25. Et Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui mon âme a été précieuse à tes yeux. Voici, j'ai agi follement et j'ai commis une très grande erreur. Et David répondit, dit, voici la lance du roi, qu'un des jeunes gens passe ici et la prenne. L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité, puisque l'Éternel t'avait livré aujourd'hui en ma main, que je n'ai pas voulu étendre ma main sur loin de l'Éternel. Et voici, comme ton âme a été aujourd'hui précieuse à mes yeux, de même mon âme soit précieuse aux yeux de l'Éternel et qu'il me délivre de toute détresse. Et Saül dit à David, béni sois-tu mon fils David, certainement tu feras de grandes choses et tu en viendras à bout. Et David alla son chemin. Et Saül retourna en son lieu. Et David dit en son cœur, maintenant, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de bon pour moi que de me sauver en hâte dans le pays des Philistins. Et Saül renoncera à me chercher encore dans tous les confins d'Israël et j'échapperai à sa main. Saül mentait. Son seul but, c'était de tuer David. Mais David avait l'esprit de Dieu. Et David a réussi à échapper à Saül. Septièmement, le meurtre. Après la tentative de meurtre, l'exécution de la décision de tuer, progression dans la détermination de tuer. 1 Samuel 19, versets 10 à 11. Et Saül chercha à frapper de sa lance David et la paroi. Il se détourna de devant Saül qui, de sa lance, frappa la paroi. Et David s'enfuit, échappa cette nuit-là. Et Saül envoya des messagers à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. 1 Samuel 19, versets 10 à 11. Donc, il avait bien l'intention de tuer David. Mais c'est pas tout, hein. La déchéance. À partir du moment où l'onction de Dieu se retire, Saül, il va essayer de trouver des réponses à ses questions, mais plus auprès de Dieu, puisque l'onction s'était retirée. Alors, il va se tourner vers qui? Vers l'occultisme. 1 Samuel, chapitre 28, verset 6 à 7. 1 Samuel 28, verset 6 à 7. Et Saül interrogea l'Éternel, Et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par songe, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui invoque les esprits, et j'irai chez elle, et je la consulterai. » Et ses serviteurs lui dirent, « Voici, il y a un Endor, une femme qui évoque les esprits. » Voilà. Il va se mettre entre les mains totalement de l'ennemi. Et tout ça par processus. Tout un processus qui a été enclenché par les esprits mauvais qui ont agité Saül et qui l'ont amené pas à pas dans des positions humaines très très antagonistes vis-à-vis de David. La haine, le désir de meurtre, etc., etc., etc. Et lui-même, n'étant plus sous le regard de Dieu, il va chercher ses réponses. Alors que, si vous regardez le départ de Saül, c'est lui qui fit passer par le fil de l'épée tous les magiciens et toutes les magiciennes d'Israël. Et à la fin, il va les consulter. Finalement, neuvièmement, c'est le suicide de Saül. Saül, puisque Dieu n'est plus avec lui, en 1 Samuel 34, 31 verset 4, Saül va se suicider totalement. Saül dit à celui qui portait ses armes, tire ton épée et perce-moi, de peur que les incirconcis ne viennent et ne me percent et ne m'outragent. Et celui qui portait ses armes ne voulut pas le faire, car qu'il avait très peur. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Suicide. C'est pas tellement que les incirconcis viennent pour le saisir, mais parce que il a été amené à cela. Il y avait toutes les autres choses qui le pressaient, qui l'oppressaient. Et finalement, Saül meurt. Il se suicide. Il se jette sur son épée et il meurt. Donc vous voyez, frères et sœurs, un exemple de l'écriture où nous voyons comment l'ennemi agit. D'abord, il va s'attaquer aux pensées, des suggestions. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, faites attention à votre intellect humain, à vos raisonnements humains. Faites attention à cela. Suggestion, obsession, jalousie, haine, idée de meurtre, tentative de meurtre, peur, crainte, mensonge, finalement, meurtre. Il veut éliminer David. Il rentre dans l'occultisme. Il va même jusqu'à consulter ces mêmes personnes qu'il avait éradiquées au début de son règne. Et à la fin, il se suicide. Ça, c'est tout un processus que les esprits mettent en place pour détruire une personne. Alors ça, c'est Saül. Mais dans nos vies, on peut très très bien comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'au suicide parce qu'ils sont passés par ces différents stades. Nous ne nous laisserons pas asservir par quoi que ce soit. Nous ne nous laisserons pas avoir par ce processus. Nous devons faire entière confiance au Seigneur. Et le processus peut être tout à fait autrement, n'est-ce pas, que pour Saül. Il y a la crainte, la peur qui peut rentrer dans un cœur et en croyant que les choses que tu es en train de vivre ou que je vis, c'est des choses qui vont m'amener à un certain point. Faut le refuser dans le nom du Seigneur. La crainte, la peur dans le cœur, les pensées infestées, nous devons les refuser dans le nom du Seigneur. Nous ne devons pas sympathiser ou simplement même dresser l'oreille à ces choses parce que il est le prince de la puissance de l'air. Il susurre aux oreilles comme il a fait avec Ève. Dieu a-t-il vraiment dit? Je ne m'appuierai pas sur mon intelligence. Je m'appuierai sur l'esprit qui vit en moi, l'esprit de Dieu qui vit en moi. Mon intelligence, elle n'est que le reflet de ce que Dieu a fait de moi. Je suis intelligent, non pas avec ma propre intelligence humaine, mais par l'esprit du Dieu vivant. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on dévoile sa tactique. C'est pour ça que je vous conseille de vous mettre sous la couverture du sang précieux de l'agneau, constamment. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas ignorant, on devient encore un plus grand danger, n'est-ce pas, pour le royaume des ténèbres. Nous aurons à voir comment le Seigneur pratiquait ses libérations, comment il discernait les choses, comment il chassait les démons, comment il rétablissait les personnes dans leur bon sens. Et parce que pour rétablir quelqu'un dans son bon sens, faut qu'il ait ôté de son cœur toute la peur, toute la crainte, toutes ces choses qui remuent, qui agitent le cœur. Il était agité par un mauvais esprit, n'est-ce pas, qui le terrifiait, qui l'assaillait. Et il y a quelque chose, frère, c'est ça que je voudrais vous dire. Il y a peut-être qu'on peut être assailli dans nos propres pensées, avec des pensées qui reviennent tout le temps, fortes, qui reviennent tout le temps, qui reviennent. Nous avons besoin d'être libérés de ça. Je vous avais fait mon témoignage, n'est-ce pas, concernant mon père, qui est mort à 57 ans d'un infarctus du myocarde, d'un infarctus foudroyant. Et moi, j'ai toujours dit, comme un sombre idiot, que si mon père était mort à 57 ans, ben moi je mourrais aussi à cet âge-là. Et pendant un moment de ma vie, j'étais infesté avec cette pensée, jusqu'au jour où le Seigneur m'en a délivré. Parce que si je ne suis pas mort d'un accident cardiaque comme mon père, Dieu m'a refait faire 3 pontages pour tenir encore plus longtemps. J'ai attendu mes 57 ans. Et quand mes 57 ans sont passés, j'ai dit, ça y est, c'est bon, c'est passé. Vous comprenez cela? Ce qui m'arrive, c'est ce que je souhaite. Faisons attention avec ces choses. C'est pour ça que nous n'avons pas un autre moyen que de nous conforter sur la bonne parole de Dieu qui est pleine d'enrichissement, pleine d'encouragement, pleine d'exhortation, pleine de certitude, d'espérance, de confiance, de foi, et balayer toutes les choses humaines qui nous tracassent la cervelle pour rien du tout. Que Dieu soit béni.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.